Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Salut Clémentine, ça va ?
Ça va et toi Mélanie ?
Bah écoute, oui, ça va, enfin mieux, j'ai retrouvé ma forme à 90%,
régénérée,
voilà. Mais du coup, non, ça va mieux que quand j'étais à l'hôpital, donc je recommence petit à petit à faire des trucs, tu vois, en temps et en heure, lire, travailler, et j'ai découvert Zelda sur
20 ans
Nintendo
après.
Switch, mais non, le nouveau Zelda sur la Nintendo Switch, et franchement, ma vie a été, s'est améliorée grâce à ce jeu, donc voilà, bon, je conseille.
J'espère que ça ne consiste plus seulement à sauver une princesse dans
son
château.
Bien sûr que si.
Bon, bon, 2018. Alors moi j'ai lu l'autobiographie de Rose McGowan qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Debout et dans laquelle elle balance la sauce sur tous les harceleurs hollywoodiens, notamment Harvey Weinstein, mais pas que lui. Et voilà, et la manière dont l'industrie traite les femmes comme des crottes de bique. Ouais.
Voilà. Mais d'ailleurs on l'a beaucoup entendu au moment où l'affaire Weinstein s'est sortie, quoi. Elle tweetait des vachement.
Ouais, mais en fait elle n'avait pas raconté exactement tous les détails de son viol et donc là ils sont racontés par le menu.
Ouais.
Voilà, lisez-le si ça vous intéresse.
Quand une femme dit non, c'est non.
Il est partout, à Hollywood, dans votre lit, chez votre femme de ménage, à l'UNEF, au PS. Il est professionnel, il se passe dans la rue. Bref, le harcèlement ne nous lâche pas d'une semelle. Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine.
Ouais. Mais alors, est-ce que tu savais que, en fait, on a retrouvé des peintures antiques qui décrivaient des scènes de harcèlement ? On voyait déjà le mec qui tenait la meuf
non,
par le poignet.
Non, mais ça ne m'étonne pas.
Donc, en fait, on se doute que ça a toujours existé. Mais c'est vrai que c'est assez étrange de voir comment l'art, qui d'ailleurs a longtemps été trusté par les hommes, a toujours exploité le phénomène au calme. Genre, on décrit des scènes de viol et de harcèlement.
Et ça fait vendre.
Ouais, déjà. Ce qu'on peut déjà souligner, c'est que, bien sûr, le harcèlement sexuel est genré. C'est-à-dire que les femmes sont harcelées pas parce qu'elles ont des vagins, mais parce que le genre femme est considéré par la société comme inférieur. Mmh. Donc en fait, le patriarcat dit que le corps des femmes, c'est open bar, quoi, ça leur appartient pas. Et c'est donc un peu logique en fait, que les hommes s'en emparent et jouent avec dans l'espace public. Mmh. Ou privé.
Effectivement, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais que maintenant, à la différence d'avant, on sait le nommer et l'identifier. Et donc on se souvient que dans les années 90, aux États-Unis, une juriste qui s'appelle Anita Hill a été la première en fait à dénoncer le harcèlement sexuel et donc elle a accusé un juge de la Cour suprême qui n'était pas encore nommé à l'époque, qui s'appelle Clarence Thomas et qui est encore en place. Lol. Donc elle l'a accusé de tenir des propos sexuels très déplacés 10 ans plus tôt.
He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals.
Donc en fait, ça a vraiment légitimé le phénomène. Sauf que, voilà, avant ça, on disait « Oh, mais c'est rien, tu te montes le bourrichon ». Et voilà, et après ça, ça a été extrêmement marquant. Le nombre de signalements de cas de harcèlement a beaucoup augmenté. Et il y a eu aussi beaucoup de femmes qui ont accédé à des postes à responsabilité, en fait, suite à ça, ce qui est assez paradoxal.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation sur HBO avec Kerry Washington dans le rôle de Anita Hill. Ça s'appelait « Confirmation ». Et c'était assez glaçant.
À voir.
Ouais.
Et alors, en France, qu'en est-il ?
Alors, en France, la loi, ça dit que le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Donc, ça, qui porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En fait, c'est souvent les deux, quoi. C'est à la fois je te dégrade et puis à la fois t'es bien en stress tout le temps, quoi.
C'est ça.
Ouais. Mais du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette émission, c'est essayer quand même de parler des différentes formes de harcèlement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur les différentes formes ?
Justement, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est très protéiforme. Et surtout, récemment, on en a entendu beaucoup parler à propos d'Hollywood.
Ouais,
mais il faut savoir que ça touche tout le monde et pas que les riches très connus ou les métiers à forte visibilité, voilà, comme dans la politique par exemple, et que voilà, beaucoup de professions précaires et de gens qui n'ont pas toujours les moyens de dénoncer, de s'exprimer ou de se plaindre sont touchés, donc les métiers agricoles, les ouvriers, les profs, voilà, à l'hôpital, etc. Et on a vu notamment récemment que des militantes qui étaient syndiquées à l'UNEF, donc c'est le syndicat des étudiants de France, ont expliqué qu'en fait, ça avait donné lieu à un néologisme qu'on appelle la castorisation. Donc, c'est le fait de construire l'organisation avec sa queue, je cite. On couche avec des filles pour les emmener dans l'organisation. Voilà,
c'est horrible.
Ça donne envie d'adhérer.
C'est horrible. Ça veut dire que déjà, dès les plus hauts niveaux, c'est pensé, quoi.
Oui, c'est intégré. Tout le monde est au courant.
Super.
Et au travail, alors, sinon ?
Bah, oui, donc le harcèlement sexuel au travail... Je refais encore un petit point loi. Donc, c'est défini par la loi comme tout ce qui relève des remarques scabreuses, des regards, des courriels ou SMS gênants, propos, plaisanteries sexistes, étalage de matériel pornographique, genre les photos de bites envoyées sur Instagram,
ouais.
Contact physique déplaisant ou non désiré, invitation importune, tentative de rapprochement accompagnée de promesses d'avantages ou de menaces de représailles, contact sexuel sous la contrainte, agression sexuelle, tentative de viol et viol.
Ouais, donc, ça fait beaucoup.
Ça recouvre beaucoup de choses, en fait. Et le problème, c'est que dans le monde du travail, c'est encore plus compliqué pour les femmes, parce que ça peut stopper une carrière, en fait. Mmh. Les femmes qui le dénoncent s'en vont très souvent, dans la plupart des cas.
Oui, donc ça n'incite pas à se plaindre.
En fait. Ouais. Et lui, généralement, le harceleur reste en place. Et c'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est qu'on dit aux femmes, plaignez-vous aux autorités compétentes, plaignez-vous aux RH, aux choses comme ça. Et en fait, généralement, ça tourne toujours en leur défaveur. Et d'ailleurs, récemment, le cas de la journaliste de la chaîne parlementaire qui avait porté plainte contre Frédéric Aziza et qui, lui, a été tranquillement réintégré alors qu'elle a dû démissionner. Quoi.
Ouais.
Et du coup, souvent, on dit « Oh là là, les carrières des hommes, elles sont détruites par des accusations, donc c'est pas à prendre à la légère. »
Mais en fait, jamais.
Ben, en fait, la plupart du temps, non. Quoi.
Ouais, c'est les carrières des femmes qui sont détruites.
Mais oui, la plupart du temps, c'est les femmes qui s'en vont après. Enfin, accuser quelqu'un, c'est souvent un poids pour toi, à la fois psychologique, mais aussi professionnel. Mmh. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué. Quoi.
Ouais, c'est vraiment une double peine, en fait.
Ben ouais. Et du coup, en fait, le phénomène du harcèlement au travail, ça dépasse les individus parce que ça crée des systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Weinstein, il y avait vraiment un système bien huilé avec des gens, plein de gens autour de lui qui s'organisaient pour couvrir ses faits et normaliser, en fait. Mmh. Dire, bah oui, mais c'est normal, il est comme ça, Harvey, c'est voilà.
C'est sa nature.
Et du coup, les assistants sont dans le truc, ses patrons et les gens avec qui il travaille sont dans le truc, signent les chèques aux victimes, ses avocats, tout le monde est dans le truc, quoi. Et en fait, ça arrive souvent quand un homme a du pouvoir. Tant qu'un homme a du pouvoir, comme dans le cas d'Harvey Weinstein, il a une couverture. C'est-à-dire que le mec, tout le monde le couvre parce que tout le monde peut profiter du pouvoir qu'il a.
Comme DSK.
Voilà, et du coup ça peut durer sur des années, comme DSK qui s'est fait démasquer à l'époque, en 2011. Et le moment où un homme puissant comme ça se fait dénoncer, c'est qu'en fait il a déjà commencé à perdre du pouvoir. Dans les deux cas, c'était déjà ça. Donc en fait il a moins d'alliés, et donc il y a plus de gens qui sont prêts à le voir tomber. Et du coup on se dit, ah, et si on écoutait en fait les 52 femmes qui l'ont accusé de harcèlement, tu vois. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est un système très pervers et où contre lequel les femmes ont beaucoup de mal à lutter. C'est compréhensible, quoi. Et puis en plus, si on veut rester rationnel, c'est mauvais pour l'économie. En fait, les femmes quittent les entreprises et quittent leur secteur de travail. En fait, il y a une étude qui dit que 80% des femmes harcelées quittent leur travail dans les 2 ans, quoi qu'il arrive, qu'elles soient entendues ou pas entendues. Donc en fait, ça donne lieu à une fuite des talents. Il y a moins d'idées générées et puis aussi beaucoup d'idées qui se ressemblent parce qu'elles sont toutes créées du point de vue et de l'expérience d'hommes blancs de classe moyenne supérieure qui sont en place et qui restent malgré les vagues, quoi. Donc en fait on a une perte de qualité, on a une perte de talent, en fait, vraiment, notamment dans l'industrie avec Harvey Weinstein, où ils ont expliqué qu'il y avait des films qui avaient été changés par le harcèlement
qui se faisait pas,
ouais. Et comme d'habitude dans les cas de domination, on s'en fout, c'est-à-dire qu'en gros on se dit c'est un dommage collatéral, quoi. C'est comme ça, quoi.
Puis c'est des gens pas très importants, quoi.
Ouais, du coup. C'est des petits rouages de la machine, donc c'est pas grave, quoi.
Et sinon, une autre forme de harcèlement qu'on connaît toutes, puisque ça concerne en fait 100% des femmes, c'est le harcèlement de rue. C'est toujours un plaisir, surtout l'été venu. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a même une brigade anti-frotteur qui existe maintenant dans le métro. Ça concerne pas beaucoup d'agents.
C'est Catherine Deneuve qui y met, ou...
C'est ça. Non, parce qu'elle ne prend pas le métro.
Ah oui, c'est vrai.
Et en fait, en ce moment, c'est surtout la pénalisation du harcèlement de rue qui fait débat, puisqu'il va y avoir un projet de loi présenté au Conseil des ministres à la fin mars. Et donc, voilà, qui pourrait instaurer notamment une amende pour outrage sexiste qui pourrait aller de 90 à 750 euros. Et donc, effectivement, ça fait débat parce qu'on se dit que c'est pas très facilement applicable.
Tu fais quoi ? T'envoies un texto à Marlène Schiappa au moment où ça arrive ?
T'envoies un tweet à la police quand on te met une main au cul, puis voilà, il réplique. Voilà, donc on se dit que c'est peut-être plus un geste symbolique qu'une mesure qui est vraiment applicable. Je ne sais pas.
Alors après, récemment, on a aussi beaucoup parlé du phénomène du cyberharcèlement. On a eu pas mal d'exemples au cours des dernières années. déjà, on peut parler de Gamergate, qui a eu ses deux cibles emblématiques. C'était Zoé Quinn et Anita Sarkeesian, qui sont deux femmes qui travaillent dans les jeux vidéo. En fait, je pense qu'on se souvient toutes, on a toutes vu passer un peu les articles et les tweets au sujet de Gamergate. C'est un mouvement quand même précurseur de l'ère Trump, quoi. Mmh. C'était avant Trump, mais
avant que les trolls soient vraiment au pouvoir, quoi.
Voilà, maintenant ils sont au pouvoir, avant ils étaient là-dedans, quoi. You might have heard that term. It's a torrent of attacks against women connected with the games business. C'est une partie de la communauté des joueurs vidéo qui s'est un peu métastasée en harceleurs, quoi, focalisée sur des cibles particulière, donc c'était les femmes qui osaient déconstruire les tendances misogynes ou racistes des jeux vidéo, quoi. Elles touchaient à quelque chose auquel il ne fallait pas toucher, quoi. Les jeux vidéo. Donc, en plus, dans ces cas-là, dans les deux cas, on remarque toujours que les débuts de la vague de harcèlement sont assez ridicules, quoi. Anita Sarkeesian, c'était en 2013, parce qu'elle avait fait un Kickstarter sur les clichés sur les femmes dans les jeux vidéo. Donc les demoiselles en détresse, les objets sexuels. What was my big diabolical master plan? To make a series of videos on YouTube about women's representations in games. Yeah. Ouais, il y a pas mort d'homme en fait.
Ouais, tu vois, c'est pas comme si elle avait dit je vais couper les couilles.
Ouais. Enfin non, tu vois, elle a juste fait ça.
C'était juste un coupage de couilles symbolique, donc ça a
Et donc voilà, là après elle s'est pris du harcèlement. Et Zoé Quinn, c'était en 2014 quand un de ses ex a publié un manifeste sur des forums en disant qu'elle avait couché avec des critiques de jeux vidéo pour obtenir des avis positifs sur son jeu vidéo à elle. Donc résultat pour les deux, insultes permanentes sur les réseaux sociaux. Menaces de mort, menaces de viol, ce qu'on appelle le doxing, donc c'est révéler l'adresse où elles habitent en disant allez-y. Le dévoilement d'identité et des chaînes YouTube dédiées à leur harcèlement. Et donc en plus, ces mecs qui font ces chaînes-là se font rémunérer par YouTube, par la pub. Donc en fait, ils en vivent parce que comme il y a tous les mecs qui les
détestent. C'est lucratif.
Mais non, mais tu vois, c'est en gros, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est une forme de harcèlement qui commence sur Internet, mais qui n'y reste pas, parce qu'après, il y a des vraies répercussions dans la vie de tous les jours. Donc, perte d'emploi, notamment Zoé Quinn, elle a eu des problèmes à ce niveau-là. Dépression, enfin, tout ce qui accompagne le harcèlement. Et même le swatting. Zoé Quinn, elle s'est fait swatter, ce qu'on appelle swatter, c'est quand les mecs appellent la police en disant « Attention, il y a une terroriste qui habite là !» Et donc, la police est tenue d'intervenir, et donc ils arrivent genre à 15 mecs, défoncent la porte et ils ont des armes et tout. Enfin, c'est terrifiant. Et il y a déjà eu des cas où ils ont tué quelqu'un comme ça, quoi. Oui. Donc, bon, voilà.
Et un autre cas plus près de chez nous, c'est Nadia Dam, qui est journaliste pour Slate et pour Europe 1. Et elle, au mois de novembre dernier, elle a été la cible d'attaque d'utilisateurs du forum jeuxvideo.com.
Ce forum, pour dire les choses poliment, il représente le bac marron d'Internet, la poubelle à déchets non recyclables. À ce stade-là, c'est pas balance ton porc, mais balance toute la chaîne de fabrication des jambons madranges, quoi de comprise.
Et contrairement à beaucoup d'autres personnes qui sont harcelées, en fait, on en a enfin parlé. C'est-à-dire que d'habitude, on est très seul quand ça.
D'habitude, la presse dit oui, bon.
Ou la presse en parle même pas, en fait. Ouais. Donc là, non seulement sa rédaction est montée au créneau, ce qui est quand même très très rare.
J'avais jamais vu ça, moi.
Ouais, et en plus, voilà, il y a eu beaucoup de papiers. Et c'est vrai qu'elle aussi, voilà, c'est le même mode opératoire, c'est-à-dire des attaques ciblées, de masse, des insultes, des menaces. Quelqu'un a même sonné chez elle en pleine nuit. Et donc, c'est des campagnes d'intimidation et des raids vraiment antiféministes.
Il y a aussi aux États-Unis la journaliste Lindy West, dont on a déjà parlé, il me semble, dans le podcast, qui a toujours écrit des articles sur les sujets tels que la grossophobie, la pop culture, le féminisme. Et en fait, c'était vraiment une cible idéale des mecs menacés. agacée par son ton décomplexé. Parce que oui, elle est grosse et elle en parle, quoi. Ça la gêne pas, elle raconte sa vie. Du coup, elle se faisait quotidiennement traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux et bien sûr menacée. Et un jour, elle a décidé de quitter Twitter et elle a fait un article sur le fait pourquoi elle quittait Twitter en expliquant le phénomène du harcèlement. Et maintenant, elle a rebondi, elle écrit pour le Guardian, le Times. Donc voilà, les losers sont dégoûtés.
Ouais. Et pour le coup, ça n'a pas handicapé sa carrière.
Non, voilà, c'est ça, ouais.
Elle en a après, fait un sujet d'article,
ouais,
justement.
Oui. Mais après, c'est quand même une fille très talentueuse, donc ça aurait été vraiment dommage qu'ils arrivent à la... Mais mieux encore, elle a confronté son harceleur, puis lui envoyait des tweets horribles, où il parodiait la mort de son père, et où il disait « Oh là là, j'ai tellement honte de ma fille, enfin, il avait créé un compte, enfin, c'est horrible. » Et dans le podcast « This American Life », elle l'appelle au téléphone, et ils discutent tous les deux, calmement. Donc c'est des années après les faits quand même. Et il finit par lui révéler qu'en fait, lui, à l'époque où il la harcelait, il se sentait mal dans sa peau. Et voir une femme bien dans son corps et grande gueule sur Internet, ça éveillait en lui un désir de destruction, un désir vraiment de la détruire, quoi.
He hated his body. He was miserable.
Oui, je me souviens très bien de cet épisode. Mais après, c'est vrai que c'était un pauvre type, quoi, qui disait qu'il allait pas bien. Et ça faisait presque un peu pitié.
Ouais, mais tu vois, enfin, du coup, le mec, je vais pas bien, donc je vais créer le compte d'un père décédé qui parle à sa fille.
C'est très genré comme réaction. Quoi. Nous, on va pas bien, on reste sous notre couette, en fait. Enfin, tu vois,
on se dit pas, si j'allais détruire des hommes sur Internet.
Oui, je vais détruire des vies. Et sinon, en France, il y a aussi Marion Séclin, donc, qui est une comédienne qui a une chaîne YouTube. Et en fait, elle a eu le malheur de faire une vidéo sur le harcèlement de rue. Et là, un YouTuber l'a pris en grippe. Donc il a fait une vidéo contre elle et depuis voilà, ça a été un déchaînement pendant au moins un an de menaces. Voilà, elle a même dû se cacher, arrêter d'aller sur Internet quasiment. Et ensuite elle en a fait un TED Talk pour le raconter.
Depuis l'été 2016, je suis championne de France de cyberharcèlement.
Et elle disait à l'époque que c'était devenu une guerre et des vagues de haine quotidiennes, même en coupant Internet. Et à ce sujet, je vous conseille le documentaire de LCI qui s'appelle « Cyberharcelé » et qui l'a très bien interviewé.
Alors là, on reste pile dans l'actualité parce qu'on a quand même eu le cas de Caroline Dehas, qui est une ancienne porte-parole de l'association Oser le féminisme et féministe depuis de longues années.
Patentée.
Et très présente sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Et elle a annoncé qu'elle quittait justement les réseaux suite à un papier publié par l'Obs. Qui en fait sur le sujet, je crois que c'était sur Tariq Ramadan, l'affaire Tariq Ramadan, où elle, en gros, ils ont mis une citation qu'elle n'avait pas dite, qui était un homme sur deux ou trois est agresseur. Et donc ils ont mixé un peu ce qu'elle disait.
Ils ont résumé pour faire du clic.
Et ils ont dit allez, on va faire ce titre-là. Et bien sûr, forcément, ça a déclenché. Ça a été repris par beaucoup d'autres titres de presse qui ont repris exactement cette citation-là qu'elle n'avait pas dite. Et derrière, t'as des mecs comme Eric Nolot sur Twitter qui en ont fait rajouter une couche en relayant l'info et bien sûr en disant @CarolineDehas, donc la recette idéale pour attirer une vague de harcèlement sur quelqu'un.
Ce qui est aussi très douloureux, c'est d'avoir conscience que vos amis, vos proches, vos parents, vos collègues voient ces messages de haine sur les réseaux sociaux et assistent un peu impuissants à un déferlement à votre rencontre sur Twitter ou sur Facebook.
On la comprend tout à fait. Elle en a eu marre de se faire traiter de tous les noms, de recevoir des menaces de viol et de mort. Et donc, elle est partie.
Ouais. Et voilà. C'est dommage parce qu'il y a vraiment une guerre d'influence dans laquelle souvent les femmes, pour se protéger, s'en vont et du coup laissent la parole.
Mais voilà, c'est la technique, des mecs, en fait. C'est vraiment de faire partir les femmes, de garder leur espace, leur bac à sable, et vraiment d'exclure les femmes, quoi. C'est ça l'objectif.
Bon, alors, et qu'est-ce qu'on peut en dire nous-mêmes de notre expérience personnelle, puisque
notre jolie expérience personnelle sur le sujet.
Qui n'est pas concernée.
Bon, harcèlement de rue, bien entendu, mais surtout, moi, j'ai été cyber-harcelée à un moment de ma vie où j'étais en dépression. Donc, en fait, tout tombait super bien.
Et surtout, c'était un moment où c'était pas encore trop la mode. Ouais. Et puis, c'était moins la mode que maintenant de cyber-harceler.
Oui, et puis,
ça passait inaperçu.
Et les gens, ils disaient, mais ferme ton ordinateur, quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi ton problème, tu vois. Et du coup, oui, c'était il y a quelques années. Et c'était un groupe de mecs journalistes qui travaillaient dans les médias et dont le passe-temps, c'était de cibler des féministes ouvertes sur Twitter. Twitter était encore un petit truc à l'époque en France. Et forcément, globalement, je faisais partie de cette sphère de féministes qui tweetaient des trucs féministes. Et du coup, en gros, leur modus operandi, c'était d'inonder de messages misogynes tous ensemble, ou racistes dans mon cas aussi. Ouais. Et puis globalement, ben, on en parlait tout à l'heure, mais moi, c'est pour ça que j'ai quitté en fait, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et encore aujourd'hui, j'y suis pas et je compte pas y retourner. J'ai trouvé d'autres manières de travailler, mais c'est pas anodin en fait que des journalistes femmes quittent les réseaux sociaux, parce que quand t'es journaliste, Twitter c'est vraiment un outil hyper important, quoi.
Ouais, et de visibilité.
De visibilité, exactement. Mais eux, pendant ce temps-là, se sont refait une virginité, donc voilà.
Oui, oui, eux sont toujours en place et maintenant écrivent sur le féminisme.
Ah oui, et sur le harcèlement aussi.
C'est ça, elles disent.
La boucle est bouclée.
Que le harcèlement c'est mal, et donc voilà.
On était jeunes.
On vous voit. On n'a pas oublié. Donc bonjour, bien le bonjour à eux et bonne journée.
Et toi, du coup ?
Bah, écoute, même combat. Enfin, moi, j'ai remarqué récemment que tout le monde a été venu me parler de ces histoires de harcèlement et qu'il y avait quand même un niveau de conscience qui avait augmenté à la fois dans ma famille et dans mes proches, donc je trouve que c'est très bien. Alors moi, j'ai été harcelée à l'école quand j'étais petite, mais pas sexuellement.
Tu dis ça en rigolant, mais c'est...
Non, mais heureusement, pardon, c'était un rire nerveux. Évidemment, dans la rue, enfin dans le métro, donc voilà, type qui se branle devant toi quand t'as 12 ans et que tu vas à l'école.
Au secours, quoi.
Et en fait... t'es tellement surprise que tu sais pas quoi faire, en fait. Donc voilà, ça, je pense que c'est un grand classique. Et moi, j'ai aussi eu la joie d'être harcelée au bureau dans mon dernier poste. Donc c'était pas non plus sexuel, mais c'était moral. Et voilà, et en fait, je pense que c'est une situation compliquée parce qu'on prend très longtemps à s'en rendre compte. Et donc moi, à l'époque, je pensais juste que mes chefs ne m'aimaient pas trop et qu'ils n'étaient pas très gentils. Voilà, donc j'ai pris du temps à me rendre compte que non, ce n'était pas ça.
Ouais, tu prends sur toi, c'est le premier réflexe de toute façon quand ça arrive.
Oui, enfin, ou tu culpabilises, ou tu te remets en cause, mais voilà, tu as besoin parfois d'un observateur extérieur pour te rendre compte qu'en fait,
dire qu'en fait, c'est grave.
Ce n'est pas légal et c'est un problème. Alors, on va écouter maintenant le témoignage d'une auditrice, Clémence, qui nous raconte comment elle a subi les assauts de son prof à l'université. Donc celui-ci l'a invitée à avoir un match de foot en lui expliquant grosso modo que si elle venait pas, ses notes en pâtiraient.
J'ai pris une décision vraiment stupide, c'est celle d'accepter l'invitation. J'y suis allée. C'était un des pires moments de ma vie, c'est-à-dire que il s'est transformé en une espèce de limace avec ses bras autour de moi. Il m'a même embrassée sur la joue à plusieurs reprises. Il a pris des selfies avec moi. C'était interminable et je me suis totalement tétanisée. J'avais juste envie de partir. Et il s'est mis à me raconter sa vie sexuelle, de long en large, à me montrer les sextos qu'on lui envoyait, à me parler des femmes à Nanterre qu'il trouve belles, des étudiantes, à leur manquer de respect, à décrire leur corps vraiment de façon abjecte, quoi. Comme vraiment... Enfin... Il allait jusqu'à les noter, en fait, leur donner une note sur 20. Et c'est là qu'il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, mais par contre, toi, t'es vraiment un 13 sur 20, c'est-à-dire que tu seras jamais belle parce que tu n'as pas assez de forme et tu n'as pas assez de poitrine et tu n'as pas assez de fesses. T'es passable, en gros, quoi. Et du coup, bah moi, j'étais achevée parce que c'était vraiment insupportable. Et je me sentais sale d'avoir accepté cette invitation. Et je me le sens toujours sale, d'ailleurs. Et du coup, on sort du match de foot. Et là, il insiste pour que je dorme chez lui, en fait. Pour que je rentre avec lui et que je dorme chez lui. Et là, évidemment, je me barre parce que... Voilà. Et... Mais avant ça, il m'avait aussi fait comprendre que si j'en parlais autour de moi, ça n'aurait pas d'effet parce que c'était sa parole contre la mienne et que d'autres étudiantes avant moi avaient déjà essayé de faire de le dénoncer et que ça n'avait jamais marché parce que ses parents sont profs à l'université et que lui est cadre à la mairie de Paris.
Et elle nous a aussi dit qu'elle n'en avait jamais parlé pendant 3 ans, parce qu'à chaque fois, en fait, on l'a soupçonné de l'avoir un peu cherché. Et donc finalement, après plusieurs années, il y a eu enfin une plainte d'étudiante et il va sans doute y avoir un procès. Ouais. Je trouve que c'est assez parlant, ce témoignage, puisqu'encore une fois, il y a un rapport de pouvoir, de hiérarchie, et la victime commence par se culpabiliser, par se dire « mais pourquoi ?»«
Pourquoi moi ?»«
Pourquoi moi ? Pourquoi j'y étais ?»« Voilà, je me suis trompée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc.
Ouais. » Est-ce qu'on a des conseils pour les victimes potentielles de différents types de harcèlement ?
Alors, aux États-Unis, ce qui fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle les Whisper Networks. Donc, c'est des réseaux silencieux, en fait, qui est comme un relais des réseaux sociaux, où les femmes se préviennent entre elles en cas de problème. Et donc, récemment, il y a eu un Google Doc partagé entre des femmes journalistes qui s'appelle la Shitty Media Men List, donc la liste des hommes pourris dans les médias. Et ça a été créé par une journaliste du magazine The New Republic pour nommer, en fait, des hommes problématiques ou dangereux. Et donc c'est vrai que c'est une solution qui n'est pas idéale ni parfaite, mais c'est quand même ça donne un peu des solutions de survie pour les personnes qui sont marginalisées professionnellement. Et en fait, récemment, ça s'est vraiment retourné contre elle parce qu'elle a été outée, il y a eu toute une controverse.
Il y a eu un article. Mais d'ailleurs, ce qu'elle disait dans l'article qui est paru, c'est qu'elle, elle avait ajouté des noms et elle a été hyper surprise de voir que d'autres fans disaient « Ah ouais, lui aussi, il m'a harcelé, lui aussi. »
Le but, c'est qu'on on se rend compte qu'on n'est pas toute seule, en fait.
Ouais.
Et alors, juridiquement, est-ce qu'il y a des recours ?
En cas de harcèlement sexuel au travail, il y a des conseils juridiques qui sont assez clairs, mais qui peuvent franchement effrayer, parce que c'est pas une situation qui est facile. Mais après, si vous sentez que de toute façon, à la fin, vous allez partir de votre boulot, autant ne pas laisser la situation telle qu'elle est et essayer d'obtenir justice.
Ouais, encore faut-il être en état pour mener bataille, parce qu'en général, on est très fragilisé. Et...
Si vous vous sentez, bien sûr, il n'y a pas d'injonction. Après, c'est si vraiment vous avez quand même envie que ça bouge un petit peu, quoi. Donc, vous pouvez déjà exprimer votre désaccord à l'auteur du harcèlement et tenir un journal. Les juristes conseillent de tenir un journal en notant tous les incidents, le jour, la date, l'heure.
Ça donne des preuves.
Voilà, parlez à vos collègues et à votre entourage, et de toute façon pour vous-même, quoi. Il ne faut pas rester isolé, garder le secret. Vous n'êtes peut-être pas la seule à être harcelée, comme on disait, et vous pourriez agir ensemble. Et aussi, c'est bien de se tourner vers des services professionnels, des associations qui s'occupent de ce type de questions. Si vous êtes licencié suite au harcèlement sexuel, peut-être parce que vous l'avez fait remonter et qu'on vous a dit « Ah, désolé, en fait, c'est vous qui allez virer.
» On n'a plus besoin de vos services.
Voilà. Vous pouvez aviser la direction par lettre recommandée en qualifiant le licenciement d'abusif, exiger son annulation ainsi que des mesures à l'encontre de l'auteur du harcèlement sexuel. Et en dernier recours, vous pouvez porter plainte, ce qui est possible devant la justice pénale dans un délai de 6 ans après le dernier fait de harcèlement.
Sinon, il y a prescription et vous l'avez dans le baba.
Voilà.
Moi, je recommanderais aussi la lecture d'un essai qui s'appelle « Le Fight Club féministe » de Jessica Bennett. Je crois qu'on en a peut-être déjà parlé ici. Donc, elle, c'est la gender editor du New York Times. En fait, elle donne pas mal de stratégies de résistance face au sexisme et aux discriminations sur le lieu de travail. Et elle dit notamment que ce qui est efficace, c'est aussi d'être entouré et donc que des gens interviennent en fait en votre faveur. Donc le but n'est pas de jouer au héros si vous êtes un homme, c'est aussi sexiste, mais de dire si vous êtes un homme ou une femme que ça vous dérange en fait. Et alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ?
Des bonnes pratiques. Déjà, on peut donner des ressources, on va dire. Pour le harcèlement sexuel au travail, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a eu pas mal d'articles sur le fait que l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail a fermé son standard téléphonique parce que pas de moyens suite à l'affaire Weinstein.
Ça nous aide, c'est super.
Suite à l'affaire Weinstein, leur nombre d'appels, je crois, a triplé ou quadruplé. Et du coup, ils ont été submergés par les appels. Et bien sûr, le gouvernement n'a rien fait. Ils ont fait des appels au gouvernement.
Rendez l'argent.
En disant, financez-nous, c'est compliqué et tout. Ouais. Mais bon, en même temps, il y avait le salon de l'agriculture, les Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, ils avaient autre chose à faire, le gouvernement. Du coup, vous pouvez plutôt aller voir du côté de Stop Violence Femmes, qui, en fait... recense une dizaine d'associations qui peuvent aider dans ce type de situation. Donc, on va mettre le lien du site.
Et dans le cas très précis du cyberharcèlement, il y a un jeune collectif assez chouette qui s'appelle le collectif féministe contre le cyberharcèlement. Et donc ça, c'est un groupe de...
C'est nos copines.
Oui, de filles qui travaillent avec des avocats et des avocates. Lesquelles, quand on les a rencontrées, nous ont dit qu'effectivement, Twitter notamment, c'était vraiment l'impunité. Non seulement Twitter souvent ne fait rien et qu'en plus, c'est très difficile à prouver.
Ouais, donc... Surtout si les gens effacent les tweets, même avec le lien, ça ne marche pas.
C'est ça, donc ce n'est pas une mince affaire.
Il y a juste justement, Zoé Quinn, suite à son harcèlement, elle a créé un réseau qui s'appelle Crash Override, qui explique en fait comment se protéger au mieux sur Internet, un peu bétonner ses comptes, son identité pour ne pas se faire hacker. Et surtout aussi, ça apporte des soutiens. Il y a des avocats, des spécialistes en sécurité qui donnent vraiment beaucoup, beaucoup de conseils sur ce site. Bon, c'est en anglais, mais ça peut valoir le détour. Et depuis MeToo, est-ce qu'il y a eu des initiatives médiatiques contre le harcèlement en France? Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on a eu Oprah et toute une panoplie de stars qui ont lancé Time's Up, qui est un fonds pour aider justement les victimes de harcèlement qui sont dans des trucs moins glamour que Hollywood. Et en France, on en est où?
Bah là, en ce moment, justement, on a vu passer pas mal de tweets à ce sujet, de tweets sponso. Il y a une campagne nationale d'information sur le harcèlement au travail. C'est vrai que ce qui est intéressant dans la culture en France, c'est qu'il y a eu, enfin, hormis la tribune atroce par Catherine Deneuve, il y a eu à la fois peu de mobilisation et très peu de balance ton port. Enfin, c'est vrai que c'est un petit milieu assez consanguin.
Au milieu du cinéma.
Et pour l'instant, aucun nom n'est sorti, alors qu'on imagine bien que ces pratiques de harcèlement ont cours. Voilà, donc on attend un peu. Ouais. Donnez-nous les noms.
Alors moi, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur les hommes qui nous écoutent, et ceux qui ne nous écoutent pas aussi. Je voulais juste dire que dans MeToo, enfin dans tout le phénomène MeToo, on dit qu'on en parle beaucoup, mais... Où sont les mecs? Autre que dire oui, mais nous, on pense pas que vraiment que ce que vous vivez, c'est du harcèlement. Où sont les mecs?
Je veux autre dire, dans que les le not all men.
Voilà, dans les solutions, quoi, tu vois. Où sont les mecs pour dire ok, on va donner de l'argent pour débloquer la situation, faire en sorte qu'il n'y ait plus de harcèlement? Où sont vraiment les hommes dans les solutions apportées, quoi? Moi, je pense, enfin, pour l'instant, je les vois pas, quoi. Du coup, on peut les attendre. Et puis aussi, en attendant, on peut donner des petits conseils sur si vous savez pas ce que c'est le harcèlement. Comment ne pas harceler une femme au travail?
Oui, voilà. Déjà.
Donc déjà, ne dites pas à une femme de sourire, parce que vous ne savez pas pourquoi elle ne sourit pas.
Oui, c'est ça, ça ne vous regarde pas. En fait.
Voilà. Ne lui envoyez pas de photos de votre bite. Voilà. On ne fait pas ça avec ses collègues. Ne l'invitez pas à sortir avec vous si elle travaille pour vous, ou avec vous même. Ne lui demandez pas d'infos sur sa vie sexuelle.
Ou son orientation, d'ailleurs.
Ça arrive. En fait, ne parlez de la vie sexuelle de personne au travail. Enfin...
Moi, ça me semble de vos exploits à la
ça me semble évident, mais bon, voilà. Je pense que c'est bon à rappeler parce que tout ça, au final, ça relève du harcèlement. Hein.
Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles règles en fait anti-harcèlement qui vont être mises en place à Hollywood et notamment sur le tournage de Wonder Woman 2, qui va être le premier film à tester ces règles éthiques. Donc, ça tombe plutôt bien.
C'est une formation de l'équipe, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et donc, en partant voilà, du haut de la pyramide et avec plusieurs personnes qui vont être des référents en fait, dans chaque équipe technique voilà, qui on pourra aller parler si jamais il y a un souci.
Bah, comme d'habitude, hein, vous trouvez toutes les références dont on a parlé dans la description de l'épisode.
Le moment pop culture.
Alors, on va parler du harcèlement dans la pop culture.
Ah.
Parce que c'est vrai que pendant longtemps, la culture a traité cette question-là un peu par-dessus la jambe, voire en faisant carrément une blague ou une punchline. Et c'est vrai que ça contribue souvent à décrédibiliser la parole des victimes. Par exemple, dans le classique Un jour sans fin.
Mais pour conquérir l'élu de son cœur.
Tu cherches quoi? Une fille pour le week-end?
Il doit revivre sans fin la même journée.
En fait, le dispositif narratif repose quasiment sur le harcèlement qui est montré comme quelque chose de romantique.
Donc, oui, parce qu'il se harcèle. Chaque jour, il essaye de reséduire la femme.
Chaque jour, il essaie de pécho et chaque jour, ça ne marche pas. C'est Bill Murray, donc le personnage, qui drague Andy McDowell. Et c'est vrai que cet acharnement ne prend pas du tout en compte le consentement en fait, de cette personne.
Ouais.
Voilà,
donc c'est le film se termine que quand il a réussi.
Voilà. Oui, c'est ça.
Désolé, bon, après, pour le spoiler, mais... Ouais.
Sorry.
Mais en vrai, dans les comédies romantiques, en règle générale, il y a toujours... la notion du consentement, c'est toujours un peu flou, quoi. Moi, je regardais... À une époque, beaucoup de dramas coréens. J'étais fan. Et en fait, dans les dramas coréens, si le gars force un peu, s'il prend la fille par la main et qu'il la jette contre un mur pour l'embrasser, c'est qu'il la veut vraiment. Donc en fait, c'est super romantique.
Il est très motivé.
Ouais, c'est vraiment montré comme quelque chose de positif, en fait. Et du coup, merci les scénaristes pour cette belle leçon de relation homme-femme.
Il y a un autre exemple qui est pour moi assez parlant. Je ne sais pas si tu te souviens d'une comédie extrêmement ordurière qui s'appelait Ted.
J'étais pas née.
C'était il n'y a pas longtemps, pourtant, avec Mark Wahlberg.
You know what I like to do to her? Something I call a dirty fuzzy.
Donc, ça parle d'un ours doté de paroles. Et dans une scène, cet ours travaille dans un supermarché. Et il se met à mimer le fait de se branler devant une collègue caissière pour peut-être la draguer ou l'amuser.
Qu'est-ce que c'est rigolo.
Voilà, et donc c'est un grand moment comique en fait du film. Et c'est vrai que quand on le revoit, on se dit que c'est quand même le malaise.
En même temps, c'est un film de gros beauf, non ? Enfin, le réalisateur, c'est un beauf.
Oui, puis en fait, les ours, ils se branlent pas en vrai dans la vraie vie, donc c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un grand moment de malaise en Malaisie.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ?
Est-ce qu'on a des recommandations culturelles cette semaine ?
Toujours. Alors moi, j'ai envie de parler d'un film qui est un film 100% meuf. Bon, il y a des mecs, mais ils sont au fond, on les voit pas trop.
Ils sont flous.
En fait, donc c'est un film qui tourne pas autour des hommes, mais autour de l'amitié et de la santé mentale. Donc petit clin d'œil à notre épisode sur la santé mentale que vous pouvez écouter si vous ne l'avez pas fait. Ça s'appelle Une vie volée en français et en anglais ça s'appelle Girl Interrupted.
Ah mais oui, un classique.
Un classique des années 90-2000. I have to be in a mental institution. Call me a cab. Okay, you're a cab. You chased a bottle of aspirin with a bottle of vodka. I had a headache. C'est adapté d'un roman autobiographique. Donc le pitch, c'est dans les années 60 aux États-Unis, une jeune lycéenne troublée est internée dans un hôpital psychiatrique pour femmes. Donc le casting est vraiment 5 étoiles. Winona Ryder, c'est l'héroïne, donc dark, décalée comme d'habitude. Il y a aussi Angelina Jolie qui a eu un Golden Globe et un Oscar pour ce rôle.
C'est peut-être un de ses premiers rôles, en tout cas.
Ouais, elle avait quand même déjà commencé, mais ouais, c'est vraiment un de ses premiers rôles marquants. Et donc, elle a un rôle vraiment d'électron libre, de tornade. Et il y a aussi Brittany Murphy, Elizabeth Moss, Whoopi Goldberg, Vanessa Redgrave. Donc, c'est vraiment un gros, gros casting. Mais j'ai appris avec vraiment choc et déception que ce film avait seulement 54% sur Rotten Tomatoes. Donc beaucoup de critiques masculines, bien sûr, qui déplorent cette, je cite, bluette qui parle de gamines qui s'apitoient sur leur propre sort en se rendant folles. Mais par contre, les films sur le même sujet qui parlent d'hommes, donc par exemple Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça c'est des chefs-d'œuvre, tu vois. Donc moi je me suis vraiment régalée en regardant ce film. Je trouvais que les actrices étaient super et j'ai beaucoup beaucoup aimé et je recommande.
Mais tu l'avais jamais vu.
Mais non, j'étais late, je sais pas, ça arrive.
Old. Moi, j'ai une recommandation plus actuelle qui passe sur Netflix en France en ce moment et qui parle aussi de harcèlement. C'est le documentaire sur Gloria Allred. I'm so proud of all of the women who have had the courage to speak out. Rich, famous, powerful men have to understand. There are rules, there are boundaries. They must respect those boundaries. This has got to end, and it needs to end right now. Et donc, c'est une avocate qui défend les victimes de harcèlement. Donc, elle est un peu sur tous les fronts. Weinstein, Bill Cosby, même Donald Trump. Et voilà, c'est une avocate américaine qui est extrêmement médiatique et très connue, et dont je ne vois pas vraiment d'équivalent en France. Enfin, on aimerait bien avoir la même ici. C'est quelqu'un qui est né dans une famille très modeste, qui a d'abord été prof et qui s'est, au début de sa carrière, qui s'est intéressée à la cause afro-américaine. Ensuite, elle est devenue syndicaliste et en fait, elle s'est retrouvée à représenter surtout des femmes quand elle est devenue avocate. Et donc, sa boîte a défendu tous les cas problématiques dans les années 80 et 90. Donc, les mères à qui les maris ne versaient pas de pension alimentaire, les cas de discrimination salariale, les victimes de viols sur des campus, le mariage pour tous. Enfin, voilà, elle était un peu de toutes les batailles. Et elle a toujours eu affaire à une opposition féroce, puisque ses critiques disent tout le temps qu'elle est hyper opportuniste et que c'est le diable. Donc elle a même été caricaturée dans les Simpsons. Enfin voilà, tout le monde se moque un peu d'elle.
Une femme qui ose parler de ses idées.
Oui, c'est ça. Et qui a une super carrière et qui parle à la télé.
Oulala, et qui a de l'argent. Scandaleux.
C'est suspect. Donc voilà, je vous recommande. Son parcours est très actuel et assez passionnant.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors cette semaine, on a retenu le témoignage de Lucie qui nous a demandé sur Instagram. Je vous écris pour un dilemme féministe qui m'occupe pas mal l'esprit et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens de me fiancer et mon entourage, me sachant féministe, m'a beaucoup demandé si j'allais prendre le nom de mon futur époux. Et je ne sais toujours pas quoi répondre. Je ne suis pas convaincue par le fait d'avoir le mien et le sien à coller. Si je garde mon nom, comment s'appelleront les enfants ? Leurs noms seront différents d'un des deux parents et si je prends le sien, c'est pas féministe ?
C'est un grand classique, enfin en tout cas pour les gens qui décident de se marier. Moi, je voudrais rappeler, pour contextualiser, que changer de nom, c'est quand même, pour les femmes en tout cas, c'est un vieux reliquat d'une époque où les femmes étaient grosso modo des marchandises, donc appartenaient à leur mari pour pouvoir continuer la lignée et faire des enfants. Moi, je ne peux répondre que personnellement, en fonction de mes principes. Moi, en tout cas, je ne me verrais pas faire quelque chose que mon conjoint ou ma conjointe ne serait pas prêt ou prête à faire. Et c'est vrai que souvent, je suis fascinée par le nombre de féministes, y compris autour de moi, qui changent leur nom. Parce que moi, dans mon métier, mon nom, c'est ma signature. Donc en fait, si je changeais de nom, si on me cherchait sur Google, par exemple, pour trouver mon travail, on ne le trouverait pas. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, en tout cas. Et c'est vrai que je ne conçois pas trop le sacrifice comme quelque chose de romantique. Pour moi, il y a plein de gestes amoureux qui ne demandent pas de renoncer à son identité.
Et puis là, c'est un sacrifice, comme d'habitude, qui vient de la femme. Donc.
Voilà, c'est ça. En plus, moi, par ailleurs, je suis fille unique, donc je n'aimerais pas que mon nom disparaisse. Et pour répondre à la question des enfants, je pense que souvent, on peut donner les deux noms. C'est vrai que c'est
avec
un peu...
Avec un tiré.
Oui, voilà, avec un tiré, c'est vrai que c'est un peu long et que parfois, l'administration est un peu pénible là-dessus, mais voilà, moi ça me paraît pas très grave. Et je me demande aussi ce que le conjoint de Lucie pense de tout ça. Pourquoi est-ce que lui ne prendrait pas ton nom? Pourquoi voilà, vous n'auriez pas chacun un nom avec un tiret, même si c'est long? Voilà, tu n'en parles pas dans ta lettre comme si c'était impensable. Alors qu'en fait, en France, en tout cas, c'est légal depuis 2011. Et aux États-Unis, le mari de l'actrice Zoé Saldana s'appelle aujourd'hui Marco Saldana.
Ouais.
Big up à lui. Voilà, donc chacun son choix. Voilà, à toi de voir.
Bon, c'est fini. Salut Clémentine, à la prochaine.
Et ne harcelez pas trop. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quad Meuf. Abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcasts et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye. Quad Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.